Prions. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous offres ce matin. Non seulement nous sommes vivants, mais bien plus, tu nous as guidés dans ta paix jusqu'en ces lieux pour répondre présent à ton invitation dans ta présence. En ce moment particulier où nous avons besoin que tu nous éclaires par ta lumière, ta parole, toi qui connais mieux le besoin de chacun de nous, à commencer par moi, viens parler à nos cœurs. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucune des promesses, aucune des provisions que tu as prévues pour chacun de nous passe outre pour lui ce jour. Donne-nous de rester attachés, focalisés, et que toi seul tu croisses et que tu prennes gloire durant tous ces cultes. Que ton nom soit béni, nous te prions parce que nous croyons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour les privilèges qu'il nous offre ce jour de réfléchir autour de sa parole. En même temps, nous remercions les consistoires et les pasteurs pour nous avoir accordé encore cette opportunité d'être l'instrument que le Seigneur va utiliser ce matin pour nous communiquer sa parole. Ainsi, si vous avez vos Bibles avec moi, nous allons ouvrir dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire les versets 31 jusqu'à 35. Et nous préparons en même temps Hébreux 13, 15. Genèse chapitre 29, les versets 31 jusqu'à 35 nous dit ce qui suit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, ou cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Amen. Frères et sœurs, faisons suite ou restons dans ce même thème que nous avons commencé depuis au début de l'année, intitulé « Quand les fondements sont renversés, les justes que feraient-ils ?» Ce jour particulier, nous voulons traiter du sujet intitulé « Choisir d'adorer Dieu ». Choisir d'adorer Dieu est le sujet que nous voulons développer. Traversons dans notre pays en tant que Congolais. Et cette situation nous amène d'une manière ou d'une autre à développer des attitudes ou avoir des sentiments tels qu'on peut arriver à avoir un point de vue quelconque vis-à-vis de Dieu. Et ici, l'on peut arriver à se poser la question au sujet de la puissance de Dieu. Vu ce que nous traversons, on peut redouter de la puissance de Dieu. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous peuvent entrer de se poser des questions du genre, nous avons prié depuis longtemps, mais peut-être la situation n'a pas encore changé. Est-ce que Dieu continue à écouter nos prières? Alors, dans ce méli-mélo que nous sommes en train de vivre en tant que nation, il sient de réfléchir. Pendant que les fondements sont renversés, les disciples de Christ, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quelle attitude, quelle est la vraie attitude que nous devons développer? Alors, la première des choses que nous devons faire en tant que disciples, c'est de connaître que Dieu fait toutes les bonnes choses à son temps. Et il fait tout, retenez, pour sa propre gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, Dieu fait tout pour lui. Si les disciples comprennent cette vérité, il va vivre différemment, même dans les situations difficiles. En fait, l'homme n'est pas le centre de l'univers, mais c'est Dieu qui en est le centre. Dieu, il est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Et le fait que c'est lui qui nous a créés, plusieurs d'entre nous ont souvent la compréhension selon laquelle il est comme obligé d'agir en notre faveur. Nous avons même tendance à commencer à croire que le monde tourne autour de nous. D'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, nous nous voyons, en tant qu'êtres humains, comme le centre de l'agir de Dieu. Alors je suis venu nous rappeler que la Bible ne tourne pas autour de l'homme, mais la Bible tourne autour de Dieu. Dieu, il est présenté comme celui pour qui tout appartient. Donc, vous et moi, nous sommes inclus dans le tout là. Nous appartenons à Dieu. Dieu étant le propriétaire de tout, il n'est redevable à personne. C'est pourquoi quand il agit de la manière dont il a planifié, il n'y a personne qui lui donne conseil. Il n'y a personne qui doit lui remettre à cause pour dire, mais comment, pourquoi tu as fait ça? Et donc, étant donné que Dieu ne doit rien à personne, notre vie, c'est un cadeau que nous recevons de lui. Et pour ça, nous devons être reconnaissants. Imaginons-nous un peu. Lorsqu'un avion s'écrase, l'avion a fait un crash. La première question qui vient dans notre tête, c'est où était Dieu? Mais lorsque des milliers d'avions atterrissent et arrivent à destination le jour, combien d'entre nous nous arrêtons pour être reconnaissant à Dieu qui a agi pour conduire cela? Alors nous avons des sentiments tels que nous arrivons à un niveau où nous pouvons prendre Dieu pour notre serviteur. Et cela a amené beaucoup de gens à développer des sentiments tels que, bon, Dieu m'a déçu. Si Dieu ne fait pas 1, 2, 3, bon, ça veut dire que moi, j'ai fait les choses à ma manière. Alors bien aimé, le Seigneur n'est pas obligé d'agir dans nos vies. Il n'est pas obligé. Parce qu'il est le Dieu qui se suffit à lui-même. Il est trois fois saint. Dieu n'existe pas, ou Dieu ne sera pas Dieu, ou il n'est pas Dieu, parce qu'il a agi dans ma vie. Il n'est pas Dieu parce qu'il a agi dans ta vie. Il n'est pas Dieu parce qu'il a créé tout ce que nous voyons. Non, il est Dieu parce qu'il est Dieu, c'est ça. Et étant donné que c'est lui le Dieu, nous devons comprendre qu'il fait tout. Et alors, tout pour sa gloire. Même quand il intervient dans ta vie, dans ma vie, dans notre église, en faveur de notre pays, il le fait d'abord pour lui, pour sa gloire. Ça veut dire que le plus grand désir de Dieu, c'est sa gloire. Et nous, en tant que disciples, lorsque nous allons arriver à avoir cette compréhension que Dieu ne vise que sa gloire, nous allons commencer à vivre différemment. C'est pourquoi nous devons apprendre à être reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos vies, et même lorsque nous voyons comme s'il n'a pas fait. Parce que nous n'avons pas les yeux, nous n'avons pas de capacités intellectuelles suffisantes pour arriver à apprécier toutes les actions de Dieu. Même lorsque nous disons, ah, Dieu n'a pas fait comme nous le voulions, mais il a fait. C'est pourquoi nous devons travailler de manière que nous rendions gloire à Dieu. Allons dans les Saintes Écritures pour essayer de voir, parce que cette vérité peut être vague pour plusieurs. Regardez les enfants d'Israël. Ils sont en Égypte. Dieu décide de les libérer. Mais quand vous lisez Exode chapitre 14, les versets 4 et 18, c'est clair que Dieu a endurci les cœurs de Pharaon, non pas pour qu'elle respecte les enfants d'Israël, mais pour que son nom soit glorifié. Dans le désert, Dieu n'a pas détruit tout Israël parce qu'Israël a désobéi à Dieu dans le désert. Dieu ne l'a pas complètement détruit. Quand vous lisez Ézéchiel 25 à 9, c'est seulement pour protéger la gloire de son nom. Troisièmement, quand vous regardez l'histoire d'Israël, Israël est devenu puissant et grand dans, parmi les autres nations. Mais même cette montée en puissance d'Israël, c'était pour qu'il se fasse un nom, pour que Dieu glorifie son nom. Et quand vous lisez le psaume 106, le verset 8, la parole de Dieu, elle est claire. Que Dieu sauve les hommes pour la gloire de son nom. Regardant la vie de Christ et son ministère sur la terre, vous allez voir, si vous lisez l'évangile selon Jean, vous pouvez lire le chapitre 7, le verset 18, ou le chapitre 17, le verset 4, vous allez remarquer que même le ministère de Jésus, c'était pour donner gloire à Dieu. Et donc, frères et sœurs, quand vous allez même loin pour voir la croix de Christ, c'était aussi pour la gloire de Dieu. L'aveugle de naissance que nous avons dans Jean chapitre 9, les disciples ont posé la question à Jésus, pour quelle raison celui-ci il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents? Jésus a répondu, ce n'était pas qu'il a péché, ni moi que ses parents ont péché. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alors, bien-aimés, vous et moi, nous sommes sauvés de nos péchés pour célébrer la gloire de Dieu. Et par conséquent, étant donné que Dieu travaille rien que pour sa gloire, nous n'avons pas de choix que de nous soumettre à ce qu'il fait. Parce que même ce qui me fait mal, même ce qui te fait mal, eh oui, s'il est en train de le faire pour que son nom soit glorifié, il ne va pas s'empêcher de le faire. C'est pourquoi il veut permettre que son propre peuple soit exporté. Il permet que même son Saint-Temple soit profané jusqu'à être brûlé. Vous pouvez dire, mais il est où? Il devait quand même se protéger. Eh non! Du moment que tout cela, il l'autorise pour, même si vous ne comprenez pas, même ce que je suis en train de traverser, ce que vous êtes en train de traverser, ce que nous sommes en train de traverser en tant que nation, eh oui, il l'autorise, pas pour nous, pas pour que les gens reconnaissent la grandeur des Congolais, mais pour que son nom soit glorifié. Alors quand nous comprendrons qu'il le fait pour sa gloire, même dans les situations difficiles, nous allons apprendre à nous soumettre à lui. Nous allons apprendre à continuer à l'aimer, même lorsque ça nous fait mal. Et donc, bien aimé, nous devons comprendre que la gloire de Dieu, c'est cela le thème central de la Bible. Et Dieu veut que cette gloire soit le thème central. Pourquoi? Parce qu'il veut que toutes les choses dans le monde soient rien que pour sa gloire. Alors, deuxième chose que nous devons connaître en tant que disciples, c'est choisir d'adorer Dieu, même à période difficile. Ah, c'est un choix. En fait, quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors, parmi ces multitudes, vous choisissez une option. Alors, on dit vous avez choisi. Alors, bien-aimés, dans tout ce que nous traversons, nous devons choisir. Ça veut dire, nous devons nous engager, décider individuellement d'adorer Dieu. Et si on doit être honnête et sincère, ça, c'est la plus grande décision et la plus difficile à prendre. Lorsque surtout, on est dans les moments difficiles. Parce que lorsqu'on est dans les moments difficiles, on a toujours tendance à mettre Dieu sur les bancs des accusés. Nous voulons le mettre devant nous, qu'il s'assied devant nous. Nous commençons à lui poser des questions parce que nous voulons qu'il nous explique pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a autorisé ça. Et malheureusement, c'est ce qu'il ne fera pas. Pour répondre à nos questionnements, pour nous expliquer les raisons pour lesquelles il agit ou il se comporte de cette manière, ça, il ne le fera pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, au lieu de nous placer à la position de juge et placer Dieu dans une position d'accusé qui doit répondre, se justifier devant nous, nous devons nous humilier et choisir d'adorer Dieu, quelles que soient les situations que nous traversons. Alors, jetons un regard sur notre sœur Léa. Eh oui, Léa, l'épouse de Jacob. En fait, Léa, c'est une épouse qui est moins aimée. Vous connaissez l'histoire, comment elle a été épousée, parce que Jacob préférait sa petite sœur mieux qu'elle, et finalement la coutume ne pouvait pas le permettre. Alors, elle est moins aimée, mais elle veut chercher à regagner le cœur de son mari par la progéniture. Cela, c'est lui dans sa manière de donner les noms aux enfants. Son premier fils qu'il a eu, parce que la Bible dit Dieu l'a rendu féconde. Lorsque Dieu a remarqué que Jacob aime la petite sœur de Léa mieux que Léa, Dieu a rendu féconde Léa, tandis que sa petite sœur était devenue comment? Stérile. Alors, quand Léa a son premier-né, il lui donne le nom de Ruben. Et voici l'exclamation qu'il donne. L'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari va faire quoi? Il va m'aimer. Donc, la grande préoccupation pour lui dans cette progéniture, c'est que son mari va l'aimer. Elle va encore tomber enceinte et avoir un deuxième enfant. Elle va lui donner le nom de Siméon. Il dit, l'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle a encore un troisième enfant. Ce sont des fils. Il l'appelle du nom de Lévi pour dire, pour cette fois-ci, mon mari va faire quoi? Il va s'attacher à moi parce que je lui ai donné trois fils. Jusqu'à ce que, lorsqu'elle trouve le quatrième enfant, elle prend conscience. Elle cesse de se tourner vers elle-même, mais elle se tourne plutôt vers Dieu. Elle dit, lorsqu'elle a eu le quatrième enfant, elle s'est exclamée en disant, cette fois-ci, je vais faire quoi? Je louerai l'Éternel. Donc, il ne s'agit plus d'elle-même, mais il s'agit de se tourner vers Dieu. Ça veut dire qu'elle fait le choix de louer Dieu, de le célébrer et de l'adorer. Ce qui pour nous, bien-aimés, nous devons comprendre que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons nous tourner vers lui dans la louange et dans l'adoration, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Alors qu'elle a cherché sa satisfaction dans beaucoup d'autres choses, elle a compris qu'en dehors de Dieu, on ne peut pas avoir le vrai bonheur qu'elle rêve. Au fait, nous connaissons aussi l'histoire des trois compagnons de Daniel. Ils sont à l'étranger. Et on leur soumet à des exigences d'adorer d'autres dieux. Étrangers, déportés, presque esclaves, mais ils ont pris le risque de refuser parce qu'ils ont choisi d'adorer Dieu. Alors qu'on a chauffé la fournaise cette fois, ils prenaient conscience qu'on a déjà chauffé la fournaise cette fois. Ils ont choisi d'adorer Dieu. Et donc, bien-aimés, adorer Dieu, ça signifie quoi au juste? Ça signifie se tourner vers Dieu pour reconnaître sa grandeur, son autorité et sa seigneurie. Oui, il est souverain, il est seigneur, donc on ne peut pas remettre à cause de ce qu'il fait. Si vous voulez comprendre l'image du Seigneur, allez dans l'Ancien Testament, allez plutôt dans le Nouveau Testament, voir ce que le roi Hérode a fait avec Jean-Baptiste. La fille vient de danser grandement, avec promesse de donner tout ce qu'elle va demander. Elle va vers sa mère qui avait des problèmes avec le serviteur de Dieu, elle dit, bon, ok, demandez-lui de te donner la tête de Jean-Baptiste sur le plat. Comme c'est le souverain qui le dit, il donne l'ordre. Coupez-moi la tête de Jean-Baptiste, amenez ça ici. On avait coupé la tête de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On ne réfléchit pas qu'ici on va faire quelque chose. C'est un crime qu'on va faire. Mais comme c'est le Seigneur qui l'a dit, on fait quoi? On exécute. Alors, bien-aimés, adorer Dieu signifie que nous devons apprendre à reconnaître la seigneurie et la souveraineté de Dieu. On ne peut pas remettre en cause ce qu'il fait. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous soumettre. Exécuter ce qu'il nous demande de faire, et cela va nous aider à expérimenter la joie, même dans les circonstances qui nous semblent les plus difficiles. Concluons en disant, ce que Dieu attend de nous dans toutes les circonstances, ce sont des sacrifices, des louanges et d'adoration. C'est ce que Hébreux nous a recommandé. Offrez à Dieu, offrez par Christ à Dieu des sacrifices. Ça veut dire, nous devons nous sacrifier, nous devons nous donner pour louer et célébrer notre Dieu, même dans les circonstances difficiles. Que la situation que nous traversons ne sert pas d'excuse pour nous amener à ne pas continuer à nous attacher au Seigneur, pour nous amener à ne pas louer notre Dieu, Parce que nous devons prendre conscience, bien-aimés, que le monde n'ira jamais de mieux en mieux. Et dans ce monde, on ne pourra pas trouver un endroit idéal où on sera en sécurité. La vraie sécurité, le vrai refuge, c'est notre Dieu. C'est en lui seul que nous devons chercher et trouver notre bonheur éternel. En agissant ainsi, nous saurons vivre à paix, même dans les tourbillons de la vie. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans la Bible qui ont compté sur le Seigneur. Nous pouvons décider, nous pouvons choisir d'adorer le Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.